parle enfin d'école et d'enseignement et d'éducation sur France Inter et à la base si j'y suis, waouh, j'ai un nœud qui se dénoue dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en parle à mon goût pas assez souvent dans les profondeurs, quoi, et que en fait, comme tu viens de le dire, Daniel, puisque je suis en train de t'écouter en tant qu'auditeur fidèle, il s'agit là rien de moins que de l'essentiel, en fait. On est tout à fait dans la conception de ce qu'on veut pour la société. Donc, en effet, il y a des manifs aujourd'hui, le 20, là. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a l'école, elle est sacrifiée, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés. En effet, les RASED sont largement menacés. Et je rajoute à ça que les associations complémentaires de l'école et déclarées d'intérêt public, sont, elles, menacées de mort à très court terme. Je fais court parce que depuis deux jours, du coup, il y a une pétition en ligne sur Internet qu'on peut consulter et signer, si on est d'accord, pour un peu lutter contre tout ça, à www.pourleducation.fr, pour l'éducation sans apostrophe et sans accent. Ouais, c'est cool.
Bonjour à tous, je suis très émue en écoutant cette émission sur les RASED qu'ils veulent détruire, quand on sait que même ceux qui existent déjà sont largement insuffisants. Moi, j'habite dans une banlieue parisienne, l'Institut préspécialisé. Elle en charge cette école. Donc vous imaginez le peu de temps qu'elle peut déjà consacrer à chaque enfant. Et au lieu d'améliorer ses moyens, de les augmenter pour que tous les enfants en difficulté puissent en bénéficier, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout. Ils détruisent l'hôpital. Aujourd'hui, la loi qui nous promette, la loi Bachelot, c'est une loi de destruction de l'hôpital pour arriver à un système à l'américaine avec la majorité des gens qui ne pourront plus soigner, et ceux qui auront encore les moyens de se soigner devront se payer des assurances privées pour pouvoir faire face aux frais hospitaliers. Et c'est la destruction de la qualité des soins, etc. Il est vraiment temps qu'on se lève.
Merci Daniel, merci pour cette immersion dans nos métiers, hein, les métiers du RASED. Voilà, moi je suis rééducateur. Ce qui a été présenté par la collègue Sylvie, c'est vraiment notre quotidien. Moi je travaille en milieu semi-rural. Et on se déplace, on va dans les écoles et on va dénicher la difficulté, et puis on assiste à des petits miracles parfois. Voilà, ce que je voulais juste souligner et qui n'a peut-être pas été dit au cours du reportage, c'est tout le travail au petit point, le travail de fond qui est fait quotidiennement de lien entre tous les acteurs autour des enfants, c'est-à-dire les services sociaux, UAS, ASE, etc., les lieux de soins, les orthophonistes, enfin, etc., tous les professionnels avec lesquels nous travaillons en étroite relation. Et je peux dire que ce travail-là, moi, on va défendre nos métiers, et c'est, je pense que notre ministre de l'Éducation sous-estime notre capacité de mobilisation, parce que nous sommes engagés très fort dans nos métiers, et nous serons engagés très fort dans la lutte. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce travail de lien qui est fait avec les services sociaux nous permet effectivement de sortir les enfants de situations dramatiques. Personnellement, ça fait 7 ans que je fais le métier de rééducateur, après 20 ans d'enseignement. J'ai en tête au moins 5 visages d'enfants dont on a sauvé la vie par ce travail de lien. Et bien, rien que pour ces enfants-là, et puis pour ceux à venir, on va se battre et se battre jusqu'au bout. On va sortir de notre devoir de réserve de fonctionnaire. Il y en a ras-le-bol. On va faire démissionner ce petit monsieur qui n'a rien compris. Voilà, on est très en colère. Très en colère. Voilà, Pascal Seine-et-Marne.
Oui, Bernard Ruchet de Chartres. Une idée de calcul dans les classes, les calculs sur des sujets de société. Par exemple, si un actionnaire a triplé ses gains avant cette fameuse crise, s'il perd 50%, quelle est la différence par rapport à un salaire environ de 1000 euros, c'est pas mal, réduit de X% pour chômage technique, ou même suppression, licenciement, etc. Hein? Voilà, des sujets que l'inspecteur d'académie de Loire-Atlantique ou autre ne pourrait pas contredire, puisque ça rentrerait bien dans le cadre, peut-être, je pense, des programmes, sans suivre forcément les livres qui sont agréés. Voilà, bonne journée à tous et bon courage, au revoir.
Oui, bonjour, là-bas, c'est JC, bonjour toute l'équipe. Voilà, je vous appelle de Haute-Garonne, proche de l'Ariège, et je voulais vous dire mon émotion à la suite de cette émission, émission du mercredi. J'ai toujours un petit peu peur de tomber dans l'excès de râlerie. C'est vrai qu'on peut tomber dans cet excès assez facilement. Aujourd'hui, en repos, j'ai écouté cette émission donc sur la disparition des RAZED. Et en tant qu'orthophoniste, j'ai eu envie tout simplement d'adresser mes remerciements à ces maîtres spécialisés pour les remercier tout simplement du travail qu'ils effectuent. Et aussi pour préciser deux, trois choses. Les retards rencontrés à l'école dans les pour les apprentissages de certains enfants, les retards dus à des problèmes affectifs, à des problèmes cognitifs légers, etc., sont pris en charge par ces maîtres spécialisés. Donc, bien évidemment, on est souvent amené à travailler avec eux quand ils se révèlent plus tard être des pathologies. Quoi qu'il en soit, la question que je me pose aujourd'hui, c'est ces retards simples qui ne pourront pas être pris en charge par des orthophonistes déjà débordés dans les milieux ruraux notamment, par qui vont être-ils pris en charge? Je pense par personne. Ça, c'est une chose. Le mot inégalité est le mot qui est ressorti le plus fréquemment dans cette émission. Je ne vois aucun autre mot plus grave que celui-ci dans l'éducation nationale, l'inégalité. Il reflète parfaitement la menace. Comment peut-on faire ça aujourd'hui? Comment peut-on aujourd'hui, en 2008, laisser disparaître des RAZED, un réseau qui a été mis en place pour justement lutter contre cette inégalité? Voilà, je voulais simplement remercier ces maîtres spécialisés et leur dire que en tant qu'orthophoniste, je me bats à côté d'eux et je lutte pour que ces réseaux continuent à exister. Merci pour votre émission, au revoir.
Merci Daniel pour ton émission d'hier. J'espère que grâce à toi, nos revendications toucheront plus de monde et que la société comprendra enfin que ce qui se joue actuellement pour l'école publique est extrêmement grave. Ton émission est vraiment d'utilité publique. Salut à toi et à tous les AMG. C'était Jérôme, professeur des écoles à La Réunion.
Oui, merci Daniel Mermet pour votre émission concernant les RAZED. Je suis moi-même rééducatrice en RAZED et je me suis enfin retrouvée à travers les témoignages que vous avez présentés. Votre mission m'a redonné confiance et je me suis mise à rêver. Et si M. Sarkozy et M. Darcos avaient écouté ce qui a été dit, peut-être changeraient-ils d'avis et au lieu de supprimer les RAZED, leur redonneraient plus de moyens pour qu'aucun enfant ne soit laissé en cours de route. On peut toujours rêver. En tout cas, merci. Christine de Seine-et-Marne.
Oui, bonjour, Albert Nadim de Paris. Ce coup-ci, on va dégraisser le Darcos, et, si possible jusqu'à l'os. Bon courage.
Marie-Claire, 41 ans, orthophoniste. Je ne sais pas si vous aurez le courage de passer mon intervention sur l'antenne. Toutefois, je me permets de l'exprimer puisque j'ai été scandalisée par le sujet d'aujourd'hui concernant les RAZED. Vous avez pris fait et cause pour défendre une catégorie de privilégiés de la société française qui prennent en otage toute une autre partie. Mère de 5 enfants, scolarisée dans l'éducation nationale, je me trouve dans l'obligation d'arrêter mon activité professionnelle pour garder mes enfants demain. Est-ce juste? Je vous le demande. Comme des millions de Français, je ne regarde pas les heures occupées par mon activité professionnelle. Et comme toute profession libérale, je travaille jusqu'au mois de septembre pour l'État et donc pour payer les fonctionnaires. Moi, je ne suis pas une idéologue. Je suis pragmatiste. Donc, en retour des impôts versés à l'État, j'attends un service minimum de la part de l'éducation nationale qui est de moins en moins prestataire des 10 services puisque cette administration est prisonnière d'une idéologie dépassée qui vit dans la nostalgie. Ne vous en déplaise, Monsieur Marmet, je suis peut-être conservatrice selon votre approche simpliste de la société. Mais moi, je travaille plus de 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Vous parlez des RAZED et les profs demain défendront soi-disant une école favorisant l'égalité. Ce discours est absolument démagogique. Deux chiffres le prouvent. 1981, 20% des enfants des milieux populaires pouvaient fréquenter les grandes écoles. 2008, 5%. Ce sont vos amis, Monsieur Mermet, qui ont réduit l'école au niveau dans lequel elle se trouve, et votre idéologie qui a conduit à cette inégalité. Tous les jours, donc, comme un orthophoniste, je cherche à donner davantage confiance à des enfants qui ont été détruits, et je pèse mes mots par les RAZED. En effet, vous avez oublié de dire que ce dispositif stigmatise les enfants dès leur plus jeune âge, et quelquefois même dès la maternelle. Un enfant est tel qu'il est, et c'est à l'enseignant de s'adapter à lui. Or, aujourd'hui, dès qu'un enfant sort du moule, il est tout de suite mis au banc de la classe, et aussitôt, on propose aux parents le plus souvent issus des milieux défavorisés, car ils n'auront pas les moyens de se défendre, une aide par le RASED. Progressivement, l'enfant se sent exclu du système éducatif et se trouve dans une position d'échec. Il ne faut pas faire de la psychologie de comptoir pour comprendre cette évolution. Donc demain, les enseignants sentant leurs privilèges menacés vont faire pression pour les conserver. Mais de grâce, dites la vérité et n'utilisez pas les principes d'égalité que vous déformez.
Et ben voilà, une claque de Marie-Claire, la pragmatiste, après tous ces messages suite à l'émission d'hier, des messages heureux, satisfaits, etc. Il fallait quand même bien qu'on le fasse entendre un autre son de cloche. Je dois avouer que c'est le seul qu'on ait, reçu, mais assez long, et qui méritait d'être écouté, à mon avis. Merci en tout cas à tous. On va continuer sur ce sujet. Aujourd'hui, on va retrouver un peu Sylvie, qui vous a plu hier beaucoup par sa sincérité, pour beaucoup d'enseignants. Vous avez été très nombreux enseignants à laisser des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Elle vous a semblé effectivement bien incarner les soucis que les enseignants connaissent aujourd'hui. Et puis, en deuxième partie de cette heure, on recevra Muriel Fitoussi, qui est l'auteur, avec Eddie Caldi, d'un bouquin passionnant qui s'appelle « Main basse sur l'école publique ». Et les deux auteurs se sont attachés à faire une sorte d'archéologie de l'idéologie de Monsieur Darcos, n'en déplaise à Marie-Claire la pragmatiste. On va voir que Monsieur Darcos, comme beaucoup de gens, comme la plupart d'entre nous, ont des idées. Et la combinaison des idées, ça s'appelle de l'idéologie, y compris le pragmatisme. C'est une idéologie aussi, c'est une idée. Il n'y a rien d'autre que ça. On est en proie à ça, finalement. Tant qu'on aura des cerveaux, on aura des idées, et exprimer ces idées, ça pourrait être pris pour de l'idéologie. Donc voilà le programme du jour. Je tiens par ailleurs à vous faire savoir un peu les résultats des sondages médiamétriques sur l'audience radio. France Inter, on vous l'a dit ce matin, on l'a dû vous le dire dans la journée, avec 10,2 points, retrouve son audience de l'an passé. C'est donc une stabilité pour France Inter. Quant à la base, si j'y suis, eh bien, on a gagné 50 000 auditeurs de plus. Alors, bienvenue et merci à ces 50 000 nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints au cours de cette dernière année. Et puis, n'oubliez pas le scandaleux procès, Marie-Claire, je vous invite, l'orthophoniste pragmatique, je vous invite au procès scandaleux fait à l'homme politique le plus populaire de France. Ce sera au théâtre de Jazet, par une bande qu'on n'ose pas qualifier, des gens comme Jacques Vergès, Didier Porte, enfin des gens comme ça, des journalistes, des avocats, etc., qui feront le procès de Bernard Kouchner les mardis 25 novembre et lundi 1er décembre à 20h au théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple, Paris 3e, métro République. Et vous pouvez réserver tout de suite votre place en téléphonant au 01 48 87 52 55, 01 48 87 52 55. Soyez patients, j'ai l'impression qu'ils n'ont qu'une ligne au théâtre de Jazet. Alors, il faut s'entêter, mais ça marche. Enfin, vous êtes très sympa, vous êtes très patient, et les réservations marchent très bien. Et puis, par ailleurs, n'oubliez pas, mercredi prochain, l'événement du siècle, c'est la sortie de Chomsky et compagnie, dont je vous reparlerai. Voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, on continue avec les enseignants sur le thème de l'enseignement, sur le thème de cet enseignement public qui devrait être le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Cette belle formule, je l'ai entendue ce matin dans le Poste. Et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet, j'appelle à propos du mouvement de grève des enseignants de demain, le 20 novembre. Eh bien, j'ai 55 ans et j'enseigne depuis 35 ans en école maternelle publique. Je dis bien j'enseigne, parce que l'école maternelle, c'est une école où l'on apprend. Monsieur Darcos commence par supprimer l'école pour les 3 ans. Il continuera. Après, que fera-t-il avec les 4 ans, avec les 5 ans? Qu'adviendra-t-il d'eux? C'est fini de l'école maternelle. Les garderies payantes prendront la place et tout le travail que faisait l'école maternelle pour les plus défavorisés n'existera plus. Les gens qui pourront payer, peuvent toujours payer, auront toujours des solutions pour et les inégalités ne feront que s'accroître. Sans parler des parents pour lesquels l'éducation gratuite, publique et laïque est un choix fondamental. Demain, si je suis dans la rue, c'est pour défendre l'école publique. Ne faites pas garder vos enfants, vous les parents. Venez avec nous pour défendre leur avenir, pour qu'on leur donne les meilleures chances. Demain, c'est l'éducation nationale tout entière, de la maternelle à l'université, qui est concernée. Alors demain, on sera tous dans la rue. Au revoir, Daniel Mermet. Merci.
Oui, Daniel, bonjour. C'est Jean de Marseille. Je suis d'accord avec Darcos, hein, il faut payer les gens suivant leur qualification. Et c'est vrai qu'il est inadmissible d'avoir besoin d'un bac plus 5 pour torcher des marmots. Et de même qu'on se demande pourquoi on paye aussi grassement un ministre d'État pour raconter autant d'insanités. Allez, je t'embrasse. Ciao, au revoir.
Oui, bonjour. J'appelle parce que samedi à 11h devant la préfecture de Périgueux, ancien fief Monsieur Xavier Darcos, il y aura une manifestation des enseignants et des parents d'élèves, et j'insiste, et des parents d'élèves, ne sont pas concernés par l'éducation, seulement les enseignants, mais également les parents. Donc nous invitons et nous convions tous les parents qui sont contre toutes les mesurettes qui sont mises en place à se retrouver donc samedi à 11h devant la préfecture. Et nous espérons être nombreux en tant que parents à défendre l'intérêt de nos enfants, ceux qui sont aujourd'hui scolarisés et ceux qui le seront. C'est-à-dire que bientôt, il faudrait presque que nos messages, on les envoie dans les maternités, pour prévenir les parents que, un, ils ne trouveront pas de place en crèche, deux, l'école maternelle n'existera plus, et trois, ils seront obligés de placer leurs enfants dans des écoles privées. Il faut absolument que nous sachions d'une manière ou d'une autre quelle éducation nous voulons pour nos enfants. Merci, merci à tous. Au revoir.
On est dans une société très élitiste et c'est que le meilleur gagne, et aussi les gens qui sont plus favorisés vont pouvoir s'en sortir parce qu'on a toujours la possibilité à l'extérieur de recourir à des personnes spécialisées ou autres pour pouvoir être aidées. Mais les personnes les plus défavorisées, là c'est toujours pareil, on creuse les écarts, elles seront encore plus défavorisées. L'enseignant, c'est pas celui qui sait. C'est pas que celui qui sait. Et que si on prend, si on se situe face à l'enfant en difficulté autrement que quelqu'un qui sait, ça désamorce pas mal de choses. Et nous, on part du principe que l'enfant, il sait aussi beaucoup de choses. Et il faut savoir l'écouter.
La pieuvre, la personne qui lit, l'éléphant, la vache et le singe.
Aujourd'hui, quand il y a une grève, on ne s'en aperçoit plus. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de manifester. Mais on n'est plus des êtres humains si on pense ça. Hein. On se lève le matin, même fatigué, hein, Rémi. Et puis on y va, on est debout. On est debout, comme tu disais, Yves. Il faut rester debout.
Salut, c'est la Bassie, j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Charlotte Perry. Et si on essayait l'ignorance?
La France supprime les razades des 8000 francs de gagner. Mais combien d'enfants sacrifiés?
Je m'appelle Yves Fradin, je suis rééducateur à Nantes. Chiffre qui me paraît important, moi, à citer, hein, c'est que 3000 suppressions de postes pour la rentrée prochaine, c'est donc la disparition des réseaux d'aide spécialisée, c'est environ 200 000 enfants qui, l'an prochain, ne pourront pas être soutenus dans leur parcours scolaire. Hein.
Quand j'explique à mon mari, qui n'est pas du tout dans le milieu enseignant, ce que c'est que mon travail d'enseignant spécialisé, quand je lui explique en long et en large, le soir, un peu démoralisé après l'école, il me donne une image que j'adore. Il me dit, voilà, il était dans un milieu agricole avant. Alors il me dit, l'éducation nationale, c'est comme une moissonneuse-batteuse qui fait des andins, des gros rouleaux de paille. Voilà. Et puis, Eh ben, l'enseignante spécialisée, c'est le râteau faneur. Alors, c'est-à-dire, sur le côté, il y a des petits, je sais pas si vous connaissez une moissonneuse batteuse, sur le côté, il y a des petits bras comme ça qui ramènent la paille qui s'est un peu égarée du gros andin, là. Voilà.
Vous me permettrez de venir voir ce que vous faites?
Mais oui, justement. Alors, moi, j'attends ça, c'est un rêve. J'attends que quelqu'un vienne voir réellement ce que c'est qu'un réseau d'aide. C'est passionnant, comment on travaille. Oui, c'est vraiment passionnant. Mais tellement peu de gens le savent qu'effectivement, si quelqu'un s'y intéresse, mais alors c'est le plus beau jour de ma vie, là, je crois.
C'est passionnant et elle est passionnée. Vous l'avez entendu hier, Sylvie. On va la retrouver un instant aujourd'hui. Elle est enseignante spécialisée, vous avez compris, dans les RASED, cette aide aux enfants, aux élèves en difficulté. Ce qui est assez étonnant, c'est que RASED en anglais, ça veut dire effacer. Et c'est ce qu'a compris Monsieur Darcos, qui fait disparaître ces postes. Colère, rage, consternation, révolte des enseignants. Et on a vu aussi, il y a aussi ceux qui sont des partisans de la disparition de ces postes. Parce que depuis le 19e siècle, l'éducation est évidemment un enjeu politique et un enjeu, Marie-Claire, idéologique, bien sûr, très important pour tout le monde, mais notamment dans notre pays. On parle, il y a un mouvement qui veut séparer l'école et l'État, toujours aujourd'hui. Et puis il y a cette poussée, ces poussées de l'enseignement, on dit libre, mais c'est pour dire privé, qu'il soit confessionnel ou non. Et on a de quoi s'inquiéter lorsqu'on a à la tête du pays un président qui déclare, dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est ce qu'on fait, qu'ils se soient inquiétés. Eddy Kaldi et Muriel Fitoussi, qu'on rencontrera dans cette deuxième partie d'heure. Et si on enseignait l'ignorance? On est ensemble jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, France Inter. Ouais,
les plus réfractaires, contaminés. Les forcing, ça la tire à sort. Les munitions, l'artillerie braquée, les camps sur des positions. Bouge-les comme un FK, toutes les défenses. Réveille-les comme Zizou réveille le stade de France. Ce soir on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Peace in Haïti, à coup de ghetto blaster. Message de paix de Buenos Aires à Ramallah, tous solidaires. De Dakar à Jakarta, faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères, pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveille-les et dis-leur c'est salutaire. Debout là-dedans, motive tes troupes, ta clique, on lève le camp d'hier. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Y'a urgence, faut qu'on se rassemble, qu'on se mobilise, qu'on s'organise, réalise, qui serait temps qu'on dramatise. En bas de chez Watt, y'en a qui crèvent la dalle. Ça se part en live, et les chances sont inégales. Y'a plus de repères, les minots sont du père. Le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi. Motif ta clique, ton clan, ta familia. Fais trembler les murs, vibrer les persiennes. Ça brams, faya, de l'île à Marseille. Monte la sauce, les passeux, faut que tu les traumatises. Balance, fais péter leurs oreilles, tu les brutalise comme des sales gosses, comme des sales gamins. Réveille-les, réveille tes voisins. Dis-leur c'est ma, dis-leur ça tape. Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la bataille. Debout là-dedans, motive tes troupes, ta clique, on lève le camp. Dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dis-leur qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Je suis d'une famille ouvrière et le syndicat c'était vraiment très important. Quand j'étais enfant, j'entendais parler du syndicat, des grèves, voilà, et de l'histoire du syndicalisme. C'est l'histoire que j'ai entendue. Donc je suis syndiquée parce que je ne sais pas comment je pourrais faire pour ne pas être syndiquée, parce que je pense qu'il faut, c'est très important de garder l'espoir que
qu'on peut être solidaire. Voilà, c'est très important pour moi.
Et là, quand vous êtes allé aux réunions dernièrement, ils vous ont mis en garde ?
Oui. Ah oui, alors là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je vous raconte. Donc, sachant que j'allais passer cette journée avec vous, moi d'abord, ça ne pouvait être que positif. Et puis, en parlant avec des amis, ils m'ont alerté quand même. Ils m'ont dit, excusez-moi, j'ai loupé la... Donc mes amis m'ont dit, fais quand même attention à toi Sylvie, si t'as pas l'autorisation de l'inspecteur, fais attention à la suite. Bon, ça m'a intriguée un petit peu ça, alors je suis allée voir mes copains syndiqués. Et là, j'ai vraiment été surprise de leur réponse. C'est-à-dire, oh là là, là, là Sylvie, en ce moment, il y a quelqu'un du syndicat à Paris qui s'occupe que de ça, que des situations conflictuelles entre l'inspection académique et les enseignants. Et, je cite de mémoire, pour moins que ça, il y en a qui sont nommés dans la Creuse. Alors, quand elle a vu ma tête, celle qui me disait ça au syndicat, une bonne copine du syndicat, elle me dit, enfin, je dis la Creuse, mais ça pourrait être... C'est pour ça qu'on rigole tous avec la Creuse. Parce que elle rigolait pas, elle. Elle me disait que pour moins que ça, donc moins que le fait de parler en tant qu'enseignante sur un micro de service public, eh bien, il y en avait qui avaient les pires ennuis. Voilà, et moi ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est incroyable de se dire aujourd'hui qu'il y a un risque à parler dans un micro sur ce qu'on fait professionnellement. Et au contraire, je trouve qu'il y a un risque à ne pas parler. C'est juste lors de l'entrée des classes.
Un risque à ne pas parler, ça c'est des belles... Oui, ça n'a pas été évident. Et d'ailleurs, on doit bien dire qu'on n'a pas eu l'autorisation de l'inspection académique pour enregistrer à l'intérieur de l'école. Voilà, il faut bien dire les choses. Alors que dans beaucoup d'autres, on a eu très souvent l'occasion de faire des reportages dans des établissements et on a toujours eu l'autorisation. Là, non. Mais si on voulait faire d'autres sujets, pas cela, c'était possible. Bon, voilà, ça fait partie de l'idéologie, tout ça, vous savez, Marie-Claire. Oui, tout le monde n'est pas aussi pragmatiste que vous. Il y a de l'idéologie dans tout ça. Bien. Donc, la suppression des RAZ et leurs effets.
Je suis enseignante depuis 10 ans. Et du coup, la suppression programmée là, des RAZ, ça va mener à quoi?
Je pense que les élèves en difficulté vont s'enraciner dans leurs difficultés, puisque nous, en tant qu'enseignants, c'est un leurre de penser que notre formation nous permet d'intervenir au même titre que quelqu'un formé d'une manière spécialisée un an de plus que nous, et de prendre les élèves une demi-heure, une heure par semaine, en plus de leur journée de classe qui est déjà longue pour ces élèves en difficulté, c'est aussi pour eux les punir en quelque sorte, leur rajouter du travail, leur rajouter et les stigmatiser, les pointer du doigt, dire toi tu restes là, c'est comme si on les gardait en retenue. Et en plus, si les familles qui n'ont plus cette aide-là se tournent vers les secteurs privés, certaines familles qui auront des moyens plus modestes, auront des difficultés à pouvoir subvenir à ces besoins-là. On accentue les inégalités, voilà, en résumé.
Éléments familiaux particuliers, mère battue qui vient de porter plainte à la gendarmerie. Difficulté principale, aide psychologique pour évacuer le stress des événements. Langage oral, moyen, langage assez pauvre, difficulté articulée, élocution nasale. Relation aux autres, bonne relation aux autres, sollicite peu l'adulte, très craintive. Attitude face au travail, bâcle son travail, travail trop rapide, peu soigné, a du mal à se corriger. Élément positif, fait preuve de bonne volonté. Réaction de la famille, maman en grande détresse.
Un jour, j'étais un jour de classe ordinaire, j'étais en bibliothèque et donc je dis à un enfant d'arrêter d'étrangler son petit camarade. Ça paraît bizarre, mais c'était quand même le quotidien de la classe là-bas. Arrête d'étrangler ton petit camarade. Et cette violence, elle est insupportable. Au bout d'un moment, je dis à l'enfant, écoute, si tu as vraiment envie, si tu es très énervé, tu n'es pas en état d'écouter l'histoire que je vais te lire, tu sors. Et l'enfant est sorti. Il a hésité. Il est arrivé près de la porte. Et c'est un souvenir très douloureux. Sur la table à côté de la porte, il y avait une perforeuse que je montre toujours avec mes doigts quand je raconte l'histoire. Une perforeuse 4 trous. C'est pas la perforeuse 2 trous, c'est la 4 trous. Vous voyez, c'est très lourd. Et cet enfant a pris cet objet dans ses mains et me l'a balancé dans l'estomac. Alors, je suis tombée. J'ai eu le souffle coupé. Et j'entendais les enfants qui disaient « Elle est morte, la maîtresse, elle est morte, la maîtresse !» Ils étaient complètement choqués, quoi, de ce qui venait de se passer. C'était quand même très violent. Et c'était juste l'année avant que je parte pour le... que je demande mon changement pour le RASED. Alors, quand je dis que je connais la violence qui peut s'exercer dans une classe où on met tous les enfants en difficulté, ouais, je peux dire que je la connais vraiment. Ça les rend fous d'être dans une classe fermée. Ça les enferme. Et je suis ressortie de ces 7 ans d'enseignement en ITEP, très mal en point. J'ai dû vraiment me demander si j'allais continuer à enseigner. Et moi, en plus, je suis très sensible parce que dans mon milieu familial, j'avais trois frères. Et j'ai 2 frères qui étaient en grosse difficulté scolaire quand ils étaient enfants, des difficultés de langage. Donc, qui sont bien traités aujourd'hui. On sait ce que c'est. Donc, il y en a un qui bégayait, et qui bégayait toujours d'ailleurs, et l'autre qui était dyslexique, et qui est toujours dyslexique d'ailleurs. Et moi, mes 2 frères, ça m'a énormément marqué. Ils ont été mis dans des classes, justement, ghetto, classe de père, classe de transition, classe, je ne sais plus trop le nom, et ça les a marqués, hein, franchement.
Vous vivez ça comment?
Bah, comme une exclusion. Et en plus, montrer du doigt, parce que à l'époque de mes frères qui sont plus âgés que moi, c'était pas tendre, hein. C'était vraiment ça portait à conséquence sur leur vie professionnelle, parce que qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est exclu du système scolaire? Eh ben, on lui propose que des métiers manuels, hein, et avec tout ce qu'on sait sur la dévalorisation du métier manuel. Donc tu n'es pas un enfant intelligent, tu n'es pas un élève performant, tu es en échec scolaire, et bien tu seras peintre en bâtiment, ou tu seras maçon, ou tu seras cariste, ou voilà. Et c'est ce que mes frères sont devenus, cariste et peintre en bâtiment, voilà. Et quand je travaille, je pense souvent à eux, je me dis, si le réseau d'aide existait, ils n'auraient peut-être pas été aussi mis à l'écart. C'est aussi pour dire qu'on n'est pas par hasard enseignant spécialisé, hein. C'est vraiment, oui. Pour moi, être enseignant spécialisé, c'est vraiiment une histoire. Moi, je vais raconter ça. J'étais d'abord enseignante, puis enseignante spécialisée en classe fermée, puis enseignante en RASED. Je peux parler du RASED comme un vrai progrès. Et je me dis, ils ont existé trop tard et ils vont disparaître trop tôt. Voilà, c'est ce que je me dis.
Petit pouce, es-tu là? Je dors. Toc, toc, toc. Petit pouce, es-tu là? Oui, je sors. Elle a raté.
On doit lire ce qui est écrit ici, en blanc. Et celui qui a le moins de cartes, quand on aura fini, bah, il aura gagné la partie. Et celui qu'on a le plus, il perdra. C'est pas un jeu comme les autres. Parce que, normalement, dans les autres jeux, c'est quand il a quelqu'un qui a moins de cartes, et bah, il perd. Et puis, celui qui a le plus de cartes, il gagne.
Lily a mangé 6 bonbons à la menthe et 3 au chocolat. Combien de bonbons a-t-elle mangé?
6 plus 3.
Ah, 9. Ça, c'est le mien.
D'accord. Ça, je vous dis à quand? Je vous dis à jeudi.
À jeudi. Au revoir.
Alors la situation problème, c'est super. Parce que là, c'est là qu'on voit que les enfants sont prêts ou pas à aborder les notions mathématiques. Quand je présente ce jeu, au départ, c'est un petit bout de temps qu'on joue. Au départ, ils sont complètement perdus. C'est-à-dire qu'ils lisent une situation et puis vont parler de autre chose que la situation mathématique. Par exemple, Annie a acheté un couple d'oiseaux. Combien d'oiseaux a-t-elle acheté? Alors, avant de se mettre vraiment au travail, il disait oh « Ben non, moi, j'ai pas d'oiseaux chez moi, j'ai que des chats ou j'ai que des chiens. » Enfin, voilà, et ça tournait vraiment. On n'était pas du tout dans la situation mathématique. Et maintenant, on y arrive. Ça y est, ils se mettent en situation de recherche. Parce que la situation problème, on voit ça souvent dans les fiches de demande d'aide, de travailler ça. Hein, c'est souvent quelque chose de complexe pour les enfants en classe. Parce que il faut lire, mais il faut comprendre ce qu'on lit. Et après, il faut utiliser la bonne technique opératoire. Alors là, c'est compliqué. Il y a souvent des difficultés, c'est souvent ce qu'on aborde en aide pédagogique au sein du réseau d'aide. Mais en classe, ça va trop vite. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc on dit, ils sont en échec. Voilà. Donc c'est un jeu assez révélateur. C'est un petit oiseau qui fait le tour du jardin. Il vient faire son nid ici. Le premier l'attrape, le deuxième le plume, le troisième le fait cuire, et le quatrième le mange. Mais le tout petit Rikiki qui n'a rien du tout, il lèche le plat.
Elle a raté.
10 minutes pour prendre un café, c'est beaucoup.
Alors, le 4 novembre, la loi de finances a été votée.
Oui, c'est ça. Elle a été votée. On était beaucoup devant l'Assemblée nationale. Il y a eu quelque chose de très émouvant. On avait des ballons gonflés à l'hélium. Et sur nos ballons, on avait accroché des ribambelles avec des noms d'enfants. Tous les noms des enfants suivis par leur AZ. Et c'était très joli à voir, déjà. Et à un moment donné, on a lâché nos ballons. En fait, ça symbolisait le futur abandon de ses élèves, quoi. C'était très émouvant. En fait, c'est bien de pas rester seul. On était devant l'Assemblée nationale. Il y avait plein de gens du RAZ. On avait nos gilets jaunes fluo. On était ensemble, en colère, triste. Mais il y avait des prises de parole et qui étaient très émouvantes, quoi. Il y a eu des députés. Il y a aussi le député Hervé Leroux, celui qui a tenté de nous défendre à l'Assemblée nationale et qui s'est fait complètement humilié par Darcos, qui lui a répondu de le laisser terminer. Alors c'est « Laissez-moi terminer, monsieur Leroux, je connais un peu le sujet. »«
Laissez-moi finir, monsieur Leroux, je connais un peu le sujet. »
Et après, Darcos, il parle des RAZ d'une façon mais complètement à côté de la plaque, quoi. Justement, il ne connaît pas le sujet. Il nous le montre. Il le dit. Tout ce qu'il dit, c'est faux, du début jusqu'à la fin. Il explique alors je connais un peu le sujet. Il dit, vous êtes dans une classe de CE2.
Les élèves sont en train de faire un cours de français, par exemple, d'étudier le passé composé, par exemple.
Et un enfant ne comprend pas ce que c'est que le passé composé. Alors, vous allez prévenir ses parents en lui disant, voilà, votre enfant va avoir un quart d'heure, une demi-heure de soutien.
Et lui expliquer ce qu'il n'a pas compris tout à l'heure dans la
journée. Alors là, faux, puisque ce n'est jamais, même le soutien, ce n'est jamais une aide au pied levé sur ce qui n'a pas été compris dans la journée. Alors là, c'est la première partie, et après il dit, il n'a pas besoin, donc cet enfant...
Il n'a pas besoin qu'on lui dise, monsieur Leroux.
Comprenez, cet enfant qui n'a pas compris le passé composé, il n'a pas besoin que dans deux ou trois jours,
quelqu'un viendra, te prendra séparément, t'expliquera ce que c'est que le passé composé.
Pendant que les autres étudieront l'imparfait. Et ça, c'est quand même pas, c'est de l'humiliation, ça, parce que résumer à ces trois phrases, ce que c'est que le travail d'un réseau d'aide, c'est pas possible. C'est vraiment dénaturer notre travail. Faut quand même savoir qu'un enfant qui est en difficulté scolaire, il organise, mais à son insu, hein, c'est inconscient, il organise des résistances. Voilà. Parce que c'est pas ça son problème. Parce qu'il est en train de dire autre chose. Il est en train de nous faire comprendre autre chose. Il est en train de nous dire qu'il est préoccupé, peut-être par sa situation familiale, peut-être par... on ne sait pas encore, hein, c'est pourquoi. Mais il est en train de nous dire, le passé composé, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Voilà. Et on ne l'entendrait pas, il faudrait lui répéter encore une fois ce qu'il ne veut pas entendre de toute façon. Je pense qu'effectivement, là... on n'est pas le RAZ n'intervient pas à ce niveau-là. Le passé composé, c'est pas notre souci.
difficulté principale, d'autres préoccupations extérieures l'empêchant de s'investir dans le milieu scolaire. Langage oral ne s'exprime pas beaucoup et encore moins quand on le sollicite. Blocage. Langage écrit ne connaît pas les lettres de l'alphabet, ne différencie pas lettres, mots, initiales. Relation aux autres. Les enfants l'ont pris en grippe. Coup de pied, claque, injustifié la plupart du temps. Attitude face au travail pas intéressé. De nombreux blocages ne sont pas capables de faire des apprentissages scolaires. Est capable de faire des choses, mais n'est pas en état de nous le montrer.
Dans mon esprit, refonder le capitalisme, c'est moins de spéculation, moins de rente, et davantage de liberté d'entreprendre, et davantage de récompense de l'effort et du travail. C'est tout le sens des réformes engagées. J'ai grand respect pour la démocratie. J'ai grand respect pour le droit de manifester. Quand j'entends les slogans de manifestation de ces derniers jours, d'une petite partie de la fonction publique d'État, je me demande s'ils se rendent compte de la gravité de la crise. Que des gens viennent de bonne foi nous demander en réponse à la crise d'embaucher davantage de fonctionnaires et davantage d'emplois publics, je me demande s'ils ont bien compris dans quel monde nous vivons.
Ah oui, hein, vous l'avez reconnu? Eh oui. Bon, il y a beaucoup de monde à la manif à Paris, des milliers de personnes, et selon nos informations, les Razed sont en tête de cortège. Et dans le cortège, quelqu'un a déclaré « Le gouvernement fait payer à l'éducation nationale le cadeau fait aux riches avec le bouclier fiscal », qui est cet ultra-gauchiste idéologique, c'est incertain, Benoît Hamon. À mon avis, ce gars-là va pas être à la tête du PS. En tout cas, on continue, pour ce qui nous concerne, avec le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Main basse sur l'école publique », avec Muriel Fitoussi qui nous visite. Muriel Fitoussi, vous êtes avec Eddy Kaldi, l'auteur de « Main basse sur l'école publique ». Et la première phrase en exergue de l'introduction de votre bouquin, c'est une citation de notre président bien-aimé Nicolas Sarkozy, qui a dit à Latran, c'est-à-dire au Vatican, il a dit ceci, dans la transmission des valeurs
et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur. Ou le curé?
Le curé ou le pasteur. Tout le monde a été stupéfait par cette phrase. Et on s'est dit, bon, ben, c'est peut-être une bouffée supplémentaire, après le plateau des Glières, après Guy Moquet, voilà une bouffée, comme ça, un truc, une idée qu'il a eue un matin, ou que d'un de ses conseillers. Eh ben non, parce que si on lit attentivement votre bouquin, on s'aperçoit que cette phrase-là a une histoire qui tient dans la pensée de Monsieur Darcos. Monsieur Darcos a une pensée.
N'en doutons pas.
Et vous en retracez l'histoire. Alors, vous rapprochez cette première citation de Nicolas Sarkozy d'une autre personne qui s'appelle Emmanuel Mignon. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette...
Tout à fait. Voilà, donc nous rapprochons donc cette citation que vous venez de faire d'une autre citation qui a été faite par Emmanuel Mignon, donc l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy.
Experte en scoutisme, hein, si je me suis pas trompé.
Et en secte également.
En secte? Non, oui. Secte, on a bien dit secte.
Oui.
On a dit secte.
Voilà, qui s'exprimait auprès du journal Le Monde et qui disait il y a quelque temps « J'ai toujours été conservatrice, j'aime l'ordre, je crois à l'initiative individuelle, à l'effort personnel et en matière économique à la main invisible du marché. Par exemple, je suis pour une privatisation totale de l'éducation nationale. » Voilà donc la prise de position de l'ancienne directrice de cabinet de monsieur Nicolas Sarkozy, chanoine d'honneur donc au Vatican.
À Latran, tout à fait.
Oui. Donc on c'est intéressant de rapprocher ces deux citations parce qu'on voit un petit peu comment finalement l'enseignement l'enseignement privé et particulièrement donc l'enseignement catholique qui représente une majorité, une grande majorité des établissements privés en France, comment cet enseignement privé catholique est instrumentalisé finalement un petit peu comme un cheval de Troie, une sorte de cheval de Troie de l'idéologie libérale en matière d'éducation.
Vous faites commencer tout ça en 1992. À cette époque-là, Xavier Darcos est inspecteur général de l'éducation nationale. Et il fonde, avec quelques hauts fonctionnaires du ministère, l'association Créateurs d'École. La très droitière, dites-vous, association Créateurs d'École. Créateurs avec un S.
Créateurs d'École, tout à fait. Donc ça, c'est 1992. Hein. On se situe à la veille d'un scrutin important en France, qui était les élections législatives. Et la droite, finalement, cherchait à se doter d'un programme et d'une boîte à idées, finalement. Parce que, bon, auparavant, la droite, on peut pas dire qu'elle avait vraiment un programme très, très défini en matière d'éducation. C'était plutôt porté par la gauche.
Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ?
Faire sauter les verrous de l'éducation nationale. Faire sauter les verrous. Ces verrous, donc, c'est tous azimuts, c'est les problèmes juridiques et financiers, le rôle des collectivités locales, la gestion des personnels, les outils pédagogiques, les programmes aussi également d'enseignement, les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services. Alors, il précise déjà que cette révolution, finalement, ne doit pas être une révolution au marteau-piqueur, mais plutôt une révolution de velours. On retrouve tout à fait la méthode Darcos qui est en train d'être mise sur pied actuellement. C'est des grands effets d'annonce, mais surtout, on parle pas de réforme Darcos, surtout pas associer le nom Darcos à une réforme à proprement parler.
Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que depuis la création de l'école, laïque et obligatoire en 1881, l'enjeu pour maîtriser le monopole de la formation des esprits, qui est un enjeu fondamental, idéologique, politique, n'a pas cessé. Ce combat n'a pas cessé. Et là, avec Monsieur Darcos et Monsieur Sarkozy, c'est une nouvelle étape. Alors, ça peut être vu comme un grand bond en arrière.
Bah, c'est-à-dire que là, c'est pas une bataille qui est engagée. Là, c'est vraiment la guerre. Hein. Donc, il y a eu plusieurs batailles qui ont été perdues justement dans cette guerre entre public et privé. Mais là, beaucoup d'enseignants ont même l'impression finalement que c'est l'issue de la guerre qui est en train de se jouer actuellement. Là, on est vraiment cette guerre atteint son paroxysme actuellement.
J'entendais Ségolène Royal à quelques heures de l'issue de ce combat passionnant entre les chefs du Parti Socialiste, ça nous passionne tous, on n'en peut plus, on n'en dort plus, qui disait, qui parlait de l'éducation nationale et qui disait, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est une très très belle formule.
Absolument.
Si seulement on entendait ce genre de phrase plus souvent, parce que ce qui est mis en cause dans le programme Darcos et dans toutes ces idéologies de privatisation libérale ou ultralibérale, de droite, conservatrice, etc., c'est quand même ce qui est au bout de ça, c'est une certaine ségrégation sociale.
Absolument.
Et c'est contre cette ségrégation sociale que l'éducation nationale, en gros, a combattu, et en tout cas, depuis les hussards noirs de la République jusqu'à aujourd'hui, on trouve cette passion chez les enseignants de lutter contre cet apartheid social.
J'évoquerai deux problèmes liés à ça. Pour commencer, le problème de la carte scolaire, de la suppression de la carte scolaire.
Parce que ça y est, c'est fait. Ça,
alors ça, voilà, c'est sur les rails. Donc, nous, on fait une petite piqûre de rappel historique en expliquant que la première fois, une des toutes premières fois où le programme donc de suppression de la carte scolaire est évoqué, c'est dans une lettre adressée aux parents d'élèves et enseignants de l'enseignement privé, donc une lettre adressée par un certain Jean-Marie Le Pen, hein, qui dans cette lettre fait l'apologie donc de la suppression de la carte scolaire, de la séparation de l'école et de l'État, de l'instauration du chèque éducation. Voilà, donc une idée portée par l'extrême droite depuis longtemps.
Vous allez nous faire croire que Darcos c'est Le Pen.
Non. On veut justement éviter les raccourcis et les images réductrices. Mais enfin, bon, on explique quand même ça, petite piqûre de rappel historique. On n'est pas contre des aménagements, mais on explique finalement que il faut se poser la question qui va décider finalement, de l'affectation de tel ou tel élève à tel ou tel dans tel ou tel établissement. Mmh, mmh. Est-ce que vous pensez vraiment que ce seront les familles et les parents d'élèves qui vont faire ce choix? Est-ce que vous pensez pas plutôt que ce seront les établissements qui choisiront leurs élèves et non pas les parents d'élèves qui choisiront leur établissement? Mmh. Donc, est-ce que ça va pas dans le sens, justement, de la ségrégation sociale? Deuxième problème que je souhaitais soulever, donc dans cette fameuse guerre entre le public et le privé, on présente finalement un peu dans une sorte de propagande politico-médiatique, il faut bien le dire, l'enseignement privé comme un petit peu ce qui représenterait le progrès, la modernité, l'efficacité en termes de pédagogie.
Ouais.
Bon, nous, on remet un peu ça en question, donc que c'est publicitaire finalement de la cause de l'enseignement privé au maître de dire, c'est quand même que le public accueille tout le monde. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Le public n'a que des obligations en matière d'accueil des élèves. Il accueille tous les élèves handicapés, il accueille les élèves qui ont des difficultés sociales, qui ont de lourdes de difficultés psychologiques, familiales, etc. Donc
on l'a vu avec Erazel, on le voit avec Erazel.
Tout à fait. Le privé ne connaît pas ces obligations-là. Le privé est avantagé dès le départ, finalement, puisqu'il lui est loisible de choisir à discrétion ses élèves.
Il y a aussi un enjeu qu'il faut pas perdre de vue dans tout ça, c'est que généralement, je dis ça sans études très précises, mais intuitivement, les enseignants, le corps enseignant, est plutôt à gauche ou centre-gauche. Donc, en l'affaiblissant, en lui enlevant ses prérogatives, en le désorganisant, ben c'est l'électorat de gauche qui s'en trouve amoindri.
C'est un enjeu de pouvoir.
C'est aussi bête que ça.
Alors que la question de l'éducation concerne tous les citoyens. D'ailleurs, nous, on se situe pas sur un plan, d'un côté ou d'un autre. D'ailleurs, on tape également sur la gauche finalement dans ce livre en disant que la gauche a laissé faire cette attaque en règle en fait contre le service public d'éducation. Mais effectivement, donc c'est un enjeu de pouvoir énorme. L'éducation, c'est un peu au carrefour finalement de toutes les luttes. Et puis c'est le monopole finalement de la formation des esprits. Donc on comprend que Nicolas Sarkozy l'est lui-même très bien compris. Nicolas Sarkozy est quand même le président qui, pour la première fois, s'immisce avec une telle ferveur, avec une telle continuité finalement dans les salles de classe, dans les manuels des élèves, dans la feuille de route des enseignants. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est notable et forcément on peut se demander pour quelle raison.
Dans vos conclusions, vous citez Ferdinand Buisson, je ne sais pas qui c'est, mais il a une très belle phrase, il dit « La seule originalité de cette école, qui n'est à personne parce qu'elle est à tous, consiste à fonder l'éducation publique, non plus sur le séparatisme confessionnel, mais sur la fraternité nationale. » Ça claque au vent, ces phrases-là, elles sont absolument super. C'était qui Ferdinand Buisson, vous savez?
C'était un républicain de la Troisième République et un penseur finalement de l'égalité républicaine, de la chance pour tous, et quelqu'un de très progressiste. Et ses avis donc sont toujours d'actualité.
Votre conclusion à vous, c'est l'exergue de votre chapitre conclusion. Vos conclusions
à
vous.
Oui, c'est une note d'espoir quand même après les déclarations d'une Emmanuelle Mignon. C'était pas mal
de finir comme ça.
Voilà, de réaffirmer les valeurs.
Merci à Muriel Fitoussi, je rappelle le titre de leur livre écrit avec Eddie Caldi, Main basse sur l'école publique, aux éditions Démopolis. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à tous et toutes, à Sylvie de Nantes, à Gilles et à Yves. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique l'émission là-bas suffit, où vous pouvez réécouter cette émission et faire tous les commentaires que vous voulez. On les consulte avec plaisir. Vous pouvez faire la même chose sur là-bas.org. Là-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission autant que vous voulez et faire les commentaires que vous souhaitez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Olivier Daligaud, c'est Yann Chouquet et Coyenne Guyel qui ont réalisé cette émission, et Agnès Lebot attend vos messages sur le répondeur Kakoshim de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.